Me voici dans cette nuit froide, et j'écris, et je sais tout cela. Je le sais peut-être parce que j'ai rencontré cet homme autrefois quand j'étais petit. Il était très grand, je crois même que sa grandeur devait surprendre. Si invraisemblable que cela paraisse, j'avais réussi vers le soir, je ne sais plus comment, à m'échapper seul de la maison. Je courus, je tournai l'angle d'une rue, et au même instant je me heurtai contre lui. Je ne comprends pas comment ce qui arriva alors a pu se dérouler en 5 secondes à peu près. Si serré qu'on le raconte, cela dure beaucoup plus longtemps. Je m'étais fait mal en me heurtant contre lui. J'étais petit, il me sembla que c'était beaucoup déjà que je ne pleurasse pas. Aussi m'attendais-je involontairement à être consolé. Comme il ne s'y décidait pas, je le crus timide. Je supposais que son esprit ne lui inspirait pas la plaisanterie par laquelle cette affaire devait se dénouer. J'étais assez content déjà de pouvoir l'aider dans cet embarras, mais pour cela, il était nécessaire de regarder dans sa figure. J'ai dit qu'il était grand. Cependant, il ne s'était pas, comme il eût été pourtant naturel, penché sur moi, de sorte qu'il se trouvait à une hauteur à laquelle je n'étais pas préparé. Il n'y avait toujours encore devant moi que l'odeur et la dureté singulière de son vêtement que j'avais senti. Soudain, vint son visage. Comment était-il? Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. C'était le visage d'un ennemi. Et à côté de ce visage, tout à côté, à la hauteur de ses yeux terribles, il y avait comme une seconde tête, son poing. Avant que j'eusse eu le temps de baisser la tête, je courais déjà, je m'esquivais à sa gauche et courus tout droit dans une rue vide et terrible, dans une rue d'une ville étrangère, d'une ville où l'on ne pardonne rien. Alors je vécus ce que je comprends à présent, ce temps lourd, massif et désespéré. Le temps où le baiser de deux hommes qui se réconcilient n'était qu'un signal pour les meurtriers qui étaient là. Ils buvaient dans le même gobelet, ils montaient aux yeux de tous le même cheval de selle, on racontait qu'ils couchaient la nuit dans un seul lit. Et tous ces contacts rendaient l'aversion de l'un pour l'autre si impatiente que chaque fois que l'on apercevait les veines battantes de l'autre, un dégoût maladif se cabrait en lui comme à l'aspect d'un crapaud. Le temps où un frère assaillait l'autre pour son héritage plus important, et le tenait prisonnier. Sans doute le roi intervint-il pour la victime et obtint-il la liberté de celle-ci et que son bien lui fut restitué. Occupé à d'autres destinées plus lointaines, l'aîné accordait la paix et exprimait dans ses lettres le remords de son méfait. Mais tous ces événements empêchaient le frère libéré de se reprendre. Le siècle le montre allant en vêtements de pèlerin d'une église à l'autre, inventant des serments toujours plus étranges. Chargé d'amulettes, il chuchote ses craintes aux moines de Saint-Denis. Et longtemps y restait inscrit dans leur registre le cierge de 100 livres qu'il trouva bon de consacrer à Saint-Louis. Il n'arriva pas à réaliser sa propre existence. Jusqu'à sa fin, il sentit la jalousie et la colère de son frère comme une constellation grimaçante au-dessus de son cœur. Et ce comte de Foix, Gaston Phébus, qui excitait l'admiration de tous, n'avait-il pas tué ouvertement son cousin Ernaud, le capitaine du roi d'Angleterre à Lourdes? Et qu'était ce meurtre manifeste auprès de cet affreux hasard que le comte n'eût pas déposé le petit couteau à ongles aiguisé, lorsqu'en un reproche crispé, il effleura de sa main, dont la beauté était fameuse, le cou nu de son fils étendu. La chambre était sombre, on dut allumer pour voir le sang qui venait de si loin et qui quittait à présent pour toujours une race admirable, en s'échappant doucement de l'étroite blessure de cet enfant épuisé. Qui pouvait être fort et s'abstenir du meurtre? Qui, en ce temps, ne savait pas que le pire était inévitable? Un pressentiment singulier envahissait çà et là celui dont le regard avait rencontré dans la journée le regard presque voluptueux de son meurtrier. Il se retirait, il s'enfermait, il écrivait ses dernières volontés et il ordonnait pour finir la civière en osier, la soutane des Célestins et que l'on répandit des cendres. Des ménestrels étrangers paraissaient devant son château et il leur faisait des dons royaux pour l'amour de leur voix qui était d'accord avec ses vagues pressentiments. Dans le regard levé des chiens, il y avait un doute et ils devenaient moins sûrs dans les mouvements qu'on leur ordonnait. De la devise qui avait compté durant toute la vie, se dégageait peu à peu un nouveau sens, parallèle et ouvert. Bien des longues habitudes vous paraissaient vieillies, mais c'était comme s'il ne s'en formait plus de nouvelles pour les remplacer. Si des projets surgissaient, on les traitait en grand sans vraiment croire en eux. En revanche, certains souvenirs prenaient un caractère singulièrement définitif. Le soir, près du feu, on croyait s'abandonner à eux. Mais la nuit, dehors, que l'on ne connaissait plus, devenait tout à coup singulièrement forte au tympan. L'oreille, habituée à tant de nuits libres et dangereuses, discernait des morceaux distincts du silence. Et cependant, c'était différent cette fois-ci. Ce n'était pas la nuit entre hier et aujourd'hui. Une nuit. Nuit. Beau sire, Dieu, et puis la résurrection. À peine en de telles heures, le chant consacré à une femme aimée vous atteignait-il. Elles étaient toutes cachées dans les aubes et dans les saluts d'amour. Elles étaient devenues inintelligibles sous leur nom de parade à traînes interminables. Tout au plus encore dans l'obscurité, les devinait-on au fond du regard qui se lève, plein de confiance et de féminine douceur, d'un bâtard. Et ensuite, avant le souper tardif, cette immobilité pensive au-dessus des mains dans la cuvette d'argent, nos propres mains. Était-il possible de créer un rapport entre ce qu'elles touchaient? Une suite, une continuité dans leurs actes de prendre et de laisser? Non. Tous les hommes essayaient partie et contrepartie. Tous s'annulaient mutuellement et il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action hors chez les frères missionnaires. Le roi, dès qu'il eut vu leurs gestes et leurs mimiques, inventa lui-même cette charte pour eux. Il leur disait « Mes chers frères, jamais personne ne lui avait tenu autant à cœur. » On leur accorda littéralement de marcher avec leur pleine signification parmi les hommes temporels. Car le roi désirait qu'ils en contaminassent beaucoup et qu'ils les entraînassent dans leur forte action où était l'ordre. En ce qui le concerne lui-même, il lui tardait de beaucoup apprendre d'eux. Ne portait-il pas, tout comme eux, les signes et les vêtements d'un certain sens? Lorsqu'il les regardait, il pouvait croire qu'il était possible d'apprendre cela, d'aller et de venir, de s'exprimer et de se replier, de telle sorte qu'il n'y eut aucun doute. D'immenses espoirs parcouraient son cœur. Dans cette salle de l'hôpital de la Trinité, éclairée d'une lumière inquiète et singulièrement indéfinie, il était assis tous les jours à sa meilleure place et il se dressait, tout fiévreux, et se tendait comme un écolier. D'autres pleuraient, mais lui était plein, à l'intérieur, de larmes étincelantes, et ne serrait que ses mains froides l'une dans l'autre pour supporter cela. Quelquefois, lorsqu'un acteur à bout de tirade sortait soudain de son grand regard, le roi levait le visage et s'effrayait. Depuis combien de temps déjà était-il là? Monseigneur Saint-Michel surgit là-haut, au bord de l'estrade, dans son armure d'argent toute miroitante. À de tels instants, il se dressait. Il regardait autour de lui comme avant une décision. Il était tout près de comprendre la contrepartie de cette action-ci, la grande passion angoissée et profane dans laquelle il jouait. Mais tout à coup, c'était passé. Tous se mouvaient de façon désordonnée, Des torches ouvertes s'avançaient sur lui et elles jetaient en haut de la voûte des ombres informes. Des hommes qu'il ne connaissait pas le tiraillaient. Il voulait jouer, mais de sa bouche rien ne sortait. Ses mouvements ne formaient pas de gestes. Les gens se serraient si singulièrement autour de lui qu'il lui semblait qu'il devait porter la croix. Et il voulut attendre qu'ils l'apportassent. Mais ils étaient plus forts et ils le poussèrent lentement dehors. Dehors, beaucoup de choses se sont transformées, je ne sais pas comment. Mais en dedans, et devant toi, mon Dieu, en dedans, devant toi, spectateur, ne sommes-nous pas sans action ? Nous sentons bien que nous ne savons pas le rôle. Nous cherchons un miroir. Nous voudrions nous défarder, renoncer à toute feinte et être véritable. Mais quelque part est encore sur nous un morceau de travestissement que nous oublions. Une trace d'exagération demeure dans nos sourcils. Nous ne remarquons pas que les commissures de nos lèvres sont repliées et nous allons et venons ainsi, railleurs et moitié de nous-mêmes, ni réel, ni acteur. C'était au théâtre d'Orange, sans bien lever les yeux, prenant seulement conscience de la brisure rustique qui forme à présent sa façade, j'étais entrée par la petite porte vitrée du gardien. Je me trouvais entre les corps de colonnes couchées et de petits altéas, mais ils ne me cachèrent que pendant un instant la coquille ouverte des gradins, qui était là, coupé par les ombres de l'après-midi, comme un énorme cadran solaire concave. J'avançais rapidement dans leur direction. Je sentais en montant entre les rangs des sièges combien je diminuais dans cet entourage. En haut, un peu plus haut, il y avait quelques visiteurs, mal répartis et curieux avec négligence. Leurs vêtements étaient désagréablement visibles, mais leurs proportions ne valaient pas qu'on s'y arrêtât. Un instant, ils me regardèrent et s'étonnèrent de ma petitesse, ce qui fit que je me retournai. Oh, je n'étais nullement préparée. On jouait, un drame immense, un drame surhumain se déroulait. Le drame de ce puissant décor dont la structure verticale apparaissait, tripartite, résonnant de grandeur, presque écrasante, et soudain mesurée dans l'excès même de sa mesure. Je cédais à l'assaut d'un bonheur violent. Ce qui se dressait là, plein d'une ordonnance d'ombre, qui rappelait une figure, avec l'obscurité concentrée dans la bouche de son milieu, limitée en haut par la coiffure aux boucles semblables de la corniche. C'était le puissant masque antique qui cache tout et derrière lequel l'univers se condense en un visage. Ici, dans ce grand hémicycle de sièges, régnait une vie d'expectative, vide et aspirante. Tout le devenir était au-delà, Dieu et destin. Et d'au-delà venait, lorsqu'on regardait très haut, légèrement par-dessus l'arête du mur, l'éternel cortège des cieux. Cette heure, je le comprends à présent, m'excluait pour toujours de nos théâtres. Qu'y faire? Que faire devant une scène sur laquelle ce mur, l'iconostase des églises russes, a été abattu, parce que l'on n'a plus la force de presser à travers sa dureté l'action semblable à un gaz qui s'échappe en gouttes d'huile pleines et lourdes. À présent, les pièces tombent par grosses miettes à travers la passoire trouée des scènes et s'amoncellent et sont balayées lorsqu'on en a assez. C'est cette même réalité à demi crue qui traîne dans les rues et dans les maisons, sauf qu'il en est là-bas davantage et qu'on en peut ici faire entrer dans un seul soir. Soyons donc sincères, nous n'avons pas plus de théâtre que nous n'avons un Dieu. Il y faudrait d'abord une communion. Chacun a ses idées et ses craintes particulières et n'en laisse voir qu'autant qui lui est utile et qui lui plaît. Nous ne cessons de délayer notre faculté de comprendre pour qu'elle suffise à nos besoins, au lieu d'appeler de nos cris le mur de notre misère commune, derrière lequel l'inconcevable aurait le temps de s'accumuler et de se tendre. Si nous avions un théâtre, serais-tu là, ô tragique, toujours de nouveau aussi mince, aussi nu, sans aucun subterfuge, devant ceux qui contentent sur ta douleur étalée leur curiosité pressée? Tu prévoyais déjà, ô toi si émouvante, la réalité de tes souffrances à Vérone. Alors que presque une enfant, jouant du théâtre, tu tenais devant toi des roses, comme un masque qui te faisait une face, et qui en t'exagérant devait te dissimuler. Il est vrai que tu étais une enfant d'acteur, et lorsque les tiens jouaient, ils voulaient être vus. Mais toi, tu dégénéras. Pour cette profession devait devenir ce qu'avait été pour Mariana Alcoforado, sans qu'elle s'en doutât, le voile de religieuse, un travestissement épais et assez durable pour qu'il fût permis d'être derrière lui, malheureuse sans restriction, avec la même instante ferveur qui fait bienheureux les bienheureux invisibles. Dans toutes les villes où tu vins, ils décrivirent tes gestes, mais ils ne comprenaient pas comment, perdant de jour en jour l'espoir, tu levais toujours un poème devant toi pour qu'il te cachât. Tu tenais tes cheveux, tes mains ou un autre objet épais devant les endroits translucides. Tu ternissais de ton haleine ceux qui étaient transparents. Tu te faisais petite, tu te cachais comme les enfants se cachent. Et alors, tu avais ce bref cri de bonheur et tout au plus un ange aurait pu te chercher. Mais lorsque tu levais prudemment les yeux, il n'y avait pas de doute qu'ils t'eussent vu tout le temps. Dans cet espace laid, creux, aux yeux innombrables, toi, toi, toi et rien que toi. Et tu avais envie d'étendre vers eux ton bras plié, avec ce signe du doigt qui conjure le mauvais œil. Tu avais envie de leur arracher ton visage dont ils se nourrissaient. Tu avais envie d'être toi-même. Ceux qui te donnaient la réplique sentaient tomber leur courage. Comme si on les avait enfermés avec une panthère, ils rampaient le long des coulisses et ne disaient que ce qu'il fallait pour ne pas t'irriter. Mais toi, tu les tirais en avant, tu les posais là, et tu agissais avec eux comme avec des êtres réels. Et ces portes flasques, ces rideaux trompeurs, ces objets sans revers te poussaient à la réplique. Tu sentais comme ton cœur se haussait indéfiniment, jusqu'à une réalité immense, et effrayé, tu essayais encore une fois de détacher de toi leurs regards, comme les longs fils de la Vierge. Mais alors ils éclataient déjà en applaudissements, par crainte du pire, comme pour détourner d'eux, au dernier moment, ce qui aurait dû les contraindre à changer leur vie.